une poésie et un conte. François Copé. L'étable. Par ordre de César Auguste, et pour connaître le nombre de sujets dont il était le maître, on recensait alors le monde tout entier. Et pour qu'on l'inscrivît, Joseph le charpentier s'en fut à Bethléem, son pays d'origine. Il cheminait, suivi d'un âne à maigre échine, dont les sabots butaient aux pierres des ravins, et qui portait, assise entre les deux couffins, Marie humble et voilée, et tout près d'être mère. C'était l'hiver, la nuit était exquise et claire, et deux astres surtout, au sombre azur des cieux, brillaient plus radieux que les plus radieux, guidant de loin déjà les bergers et les mages. À travers plaines, monts, torrents, cités, villages, les deux époux allaient au but, pleins de soucis, car la femme souffrait. Ils se hâtaient ainsi, depuis des jours, faisant halte près des eaux vives, et pendant leur repas de pain noir et d'olive, l'âne broutait, cherchant l'herbe entre les cailloux. C'était l'hiver, la nuit, mais le temps était doux. Un calme solennel planait sur la nature. Or, après un faux pas de son humble monture, Marie ayant gémi, l'homme étendit le bras et lui montrant au fond des ténèbres, là-bas, une faible lumière, il dit « Voici l'auberge. Ô femme douloureuse, ô mère, ô sainte Vierge, il te faudrait un lit, une chambre et du feu. Mais nul ne sait qu'en toi tu portes l'homme Dieu, dont bientôt l'univers chantera les louanges. Le secret n'est connu que de vous et des anges, pauvre et timide couple arrêté sur le seuil. L'aubergiste n'a pas son air de bon accueil. Ce bonhomme à bâton, cette femme sur l'âne, il les juge d'un seul regard et les condamne. Mendiant, vagabond, qui sait, peut-être pis. Du reste, aux alentours, les chameaux accroupis et les mulets tapant du pied dans l'écurie prouvent qu'une cohue est à l'hôtellerie. Et dans la salle basse, où l'âtre flambe et luit, on entend chanter, rire et parler à grand bruit les marchands à qui sont ces animaux de charge. « Pas de place pour vous !» dit l'hôtelier. « Au large, tout est plein, bonnes gens, au large !» Mais tout bas, il grogne entre ses dents. Ce n'est point, en tout cas, pour ces gueux que ma table et mes chambres sont faites. Ô Messie, annoncé par la voix des prophètes, Christ que le monde attend et qui vient le sauver, je t'adore à genoux. Quoi ? Tu veux éprouver, Dieu de paix, de bonté, de douceur, d'innocence, la dureté des cœurs, même avant ta naissance? Toi qui pourrais, aux cieux ouverts et fulgurants, paraître et triompher, tu veux que tes parents soient outragés au seuil de cette hôtellerie, et tu permets, Seigneur, que ta mère Marie, succombant sous le poids de son divin fardeau, ne trouve pas un gîte et pas un verre d'eau? Oui, tu le veux ainsi, Dieu né dans la misère, afin que le chrétien voie en tout homme un frère, et dans tout malheureux un frère préféré, et qu'à jamais pour lui le pauvre soit sacré. Mais le monde à ton ordre est-il resté docile, divin maître, devant tant d'errants sans asile? Qui donc aujourd'hui songe aux parents de Jésus, jadis à Bethléem, si durement reçu. Hélas, qui se souvient de la sainte famille? Donc, sous tous les regards de la nuit qui scintille, les voyageurs sont là, l'air si triste tous deux, que l'hôtelier finit par avoir pitié d'eux. D'ailleurs, il s'aperçoit que la femme défaille. Hola, valet, un coup de fourche dans la paille. À l'étable, ces gens y passeront la nuit. Et c'est dans cet endroit abject qu'on les conduit. C'est là qu'on fait un lit de paille sur la fange pour celle que sacra le salut de l'archange. Et tandis que Joseph donne à l'âne son foin et cherche à s'installer pour la nuit dans un coin, troublé par les intrus, un vieux bœuf qui rumine s'éveille et d'un gros œil mauvais les examine. Mais que se passe-t-il dans les hauteurs du ciel, minuit? Voici l'instant promis par Gabriel. Une voix, à travers l'abîme solitaire, dit « Gloire au Dieu très haut, paix au bon sur la terre !» Puis, on entend le vol d'un ange qui s'enfuit. Ô sainte nuit, suave et formidable nuit! Nuit où va s'accomplir, dans cette étable immonde, le plus immense fait de l'histoire du monde. Ô nuit, quelle splendeur! Les constellations ont de tendres regards d'amour dans leurs rayons. Chaque étoile, ce soir, palpite, tout émue, comme un cœur qu'une intime allégresse remue. Et suit, de loin, avec un sourire d'amis, les bergers laissant là leur bétail endormi. Et là-bas, au désert, sous l'azur diaphane, les trois rois d'Orient venant en caravane. Et pendant cette nuit, monde païen, tu dors, repu, cruel, content, sans espoir ni remords. À tes faux dieux de marbre et de bronze incrédules, et les pleurs de l'esclave au fer dans l'ergastule, et les lions au fond du cirque rugissant, vers leur prochain repas de chair d'homme et de sang, ne t'éveillerait pas de ton sommeil sans rêve. C'est pourtant cette nuit que ton règne s'achève, vieux monde, et que surgit le Dieu de la bonté. Bientôt, par ta bassesse et par ta lâcheté, un Tibère, un Néron auront leur temple à Rome. Mais le Dieu qui mourra pour nous, le Dieu fait homme, Jésus, notre Sauveur, vient de naître aujourd'hui. Tu dors et n'en sais rien, mais le ciel le sait, lui. Et c'est pourquoi ce soir, dans la nuit étoilée, où flotte doucement une musique ailée, s'en vont vers Bethléem le pasteur et le roi. C'est pourquoi le ciel est en fête, et c'est pourquoi, devant l'humanité meilleure qu'il pressente, tout le firmament prie et tous les astres chantent. Rêve, chimère, dit un sceptique en riant, légende fabuleuse et conte d'Orient. Génier comme lui, pardon Dieu véritable, mon âme était alors l'infecte et sombre étable, ouverte à tes parents, les pauvres voyageurs. Car hélas, chez le moins coupable des pécheurs, ne fût-ce qu'en désir, ne fût-ce qu'en pensée, que de honte secrète et de fange amassée. En mon âme logeait un vice coutumier, tel qu'un vil animal vautré sur son fumier. Et dans l'ombre malsaine et d'un miasme imprégné, le remords me guettait, monstrueuse araignée. Mais Jésus qu'à présent je prie agenouillé, n'a pas reçu le jour dans un lieu moins souillé. Si le moindre frisson de repentir pénètre, dans un cœur saturé de mal, Dieu peut-il naître, j'ai connu cet espoir et cette vérité. Un jour béni, quand la douleur m'a visité. J'ai prié, demandant pardon de mon offense. Humblement, j'ai rouvert au Dieu de mon enfance. Mon âme, cet asile impur et ténébreux, il y daigna descendre. Et, maître généreux, qui même à l'ouvrier tardif donne un salaire, il y règne aujourd'hui la parfume et l'éclair. Prière, sacrement, ô bienfaits inouïs, comme l'étable aux yeux des bergers éblouis, brilla d'une clarté merveilleuse et subite, mon âme resplendit depuis que Dieu l'habite. Sous la nuit bleue, où vibre un hymne de Noël, s'ouvre le toit obscur qui me cachait le ciel, et le hideux remords, l'araignée en sa toile, rayonne tout à coup et devient une étoile. François Copé. Les sabots du petit Wolf. Il était une fois, il y a si longtemps que tout le monde a oublié la date, dans une ville du nord de l'Europe, dont le nom est si difficile à prononcer que personne ne s'en souvient. Il était une fois un petit garçon de 7 ans nommé Wolf. Orphelin de père et de mère, et resté à la charge d'une vieille tante, personne dure et avaricieuse, qui n'embrassait son neveu qu'au jour de l'an et qui poussait un grand soupir de regret chaque fois qu'elle lui servait une écuellée de soupe. Mais le pauvre petit était d'un si bon naturel qu'il aimait tout de même la vieille femme, bien qu'elle lui fît grand peur et qu'il ne pût regarder sans trembler la grosse verrue ornée de 4 poils gris qu'elle avait au bout du nez. Comme la tante de Wolf était connue de toute la ville pour avoir pignon sur rue et de l'or plein un vieux bas de laine, elle n'avait pas osé envoyer son neveu à l'école des pauvres, mais elle avait tellement chicané pour obtenir un rabais avec le magister chez qui le petit Wolf allait en classe, que ce mauvais pédant, vexé d'avoir un élève si mal vêtu et payant si mal, lui infligeait très souvent et sans justice aucune l'écriteau dans le dos et le bonnet d'âne, et excitait même contre lui ses camarades, tous fils de bourgeois cossus, qui faisaient de l'orphelin leur souffre-douleur. Le pauvre mignon était donc malheureux comme les pierres du chemin et se cachait dans tous les coins pour pleurer quand arrivèrent les fêtes de Noël. La veille du grand jour, le maître d'école devait conduire tous ses élèves à la messe de minuit et les ramener chez leurs parents. Or, comme l'hiver était très rigoureux cette année-là, et comme depuis plusieurs jours il était tombé une grande quantité de neige, les écoliers vinrent tous au rendez-vous, chaudement paquetés et emmitouflés, avec bonnets de fourrure enfoncés sur les oreilles, doubles et triples vestes, gants et mitaines de tricot et bonnes grosses bottines à clous et à fortes semelles. Seul, le petit Wolf se présenta, grelottant sous ses habits de tous les jours et des dimanches, et n'ayant aux pieds que des chaussons de Strasbourg dans de lourds sabots. Ses méchants camarades, devant sa triste mine et sa dégaine de paysan, firent sur son compte 1000 risées. Mais l'orphelin était tellement occupé à souffler sur ses doigts et souffrait tant de ses engelures qu'il n'y prit pas garde. Et la bande de gamins, marchant deux par deux, magister en tête, se mit en route pour la paroisse. Il faisait bon dans l'église, qui était toute resplendissante de cierges allumés, et les écoliers, excités par la douce chaleur, profitèrent du tapage de l'orgue et des chants pour bavarder à demi-voix. Ils chantaient les réveillons qui les attendaient dans leur famille. Le fils du bourgmestre avait vu, avant de partir, une oie monstrueuse que des truffes tachetaient de points noirs comme un léopard. Chez le premier échevin, il y avait un petit sapin dans une caisse, aux branches duquel pendaient des oranges, des sucreries et des polichinelles. Et la cuisinière du tabellion avait attaché derrière son dos, avec une épingle, les deux brides de son bonnet, ce qu'elle ne faisait que dans ses jours d'inspiration, quand elle était sûre de réussir son fameux plat sucré. Et puis, les écoliers parlaient aussi de ce que leur apporterait le petit Noël, de ce qu'ils disposeraient dans leurs souliers, que tout serait soin, bien entendu, de laisser dans la cheminée avant d'aller se mettre au lit. Et dans les yeux de ces galopins, éveillés comme une poignée de souris, étincelait par avance la joie d'apercevoir, à leur réveil, le papier rose des sacs de pralines, les soldats de plomb rangés en bataillon dans leurs boîtes, les ménageries sentant le bois verni et les magnifiques pantins habillés de pourpre et de clinquant. Le petit Wolf, lui, savait bien, par expérience, que sa vieille avare tante l'enverrait se coucher sans souper. Mais, naïvement, et certain d'avoir été toute l'année aussi sage et aussi laborieux que possible, il espérait que le petit Noël ne l'oublierait pas. Et il comptait bien, tout à l'heure, placer sa paire de sabots dans les cendres du foyer. La messe de minuit terminée, les fidèles s'en allèrent, impatients du réveillon, et la bande des écoliers, toujours deux par deux et suivant le pédagogue, sortit de l'église. Or, sous le porche, assis sur un banc de pierre surmonté d'une niche ogivale, un enfant était endormi. Un enfant, couvert d'une robe de laine blanche et pieds nus malgré la froidure. Ce n'était point un mendiant, car sa robe était propre et neuve, et près de lui, sur le sol, on voyait, liés dans une serge, une équerre, une hache, une bise aiguë et les autres outils de l'apprenti charpentier. Éclairé par la lueur des étoiles, son visage aux yeux clos avait une expression de douceur divine, et ses longs cheveux bouclés d'un blond roux semblaient allumer une auréole autour de son front. Mais ses pieds d'enfant, bleuis par le froid de cette nuit cruelle de décembre, faisaient mal à voir. Les écoliers, si bien vêtus et chaussés pour l'hiver, passèrent, indifférents, devant l'enfant inconnu. Quelques-uns même, fils des plus gros notables de la ville, jetèrent sur ce vagabond un regard où se lisait tout le mépris des riches pour les pauvres, des gras pour les maigres. Mais le petit Wolf, sortant de l'église le dernier, s'arrêta tout ému devant le bel enfant qui dormait. « Hélas !» se dit l'orphelin, « c'est affreux, ce pauvre petit va sans chaussures par un temps si rude. Mais ce qui est encore pis, il n'a même pas ce soir un soulier ou un sabot à laisser devant lui pendant son sommeil, afin que le petit Noël y dépose de quoi soulager sa misère. » Et, emporté par son bon cœur, Wolf retira le sabot de son pied droit, le posa devant l'enfant endormi et, comme il put, tantôt à cloche-pied, tantôt boitillant et mouillant son chausson dans la neige, il retourna chez sa tante.
« Voyez le vaurien !»
s'écria la vieille, pleine de fureur au retour du déchaussé.
« Qu'as-tu fait de ton sabot, petit misérable ?»
Le petit Wolf ne savait pas mentir. Et bien qu'il grelottât de terreur en voyant se hérisser les poils gris sur le nez de la mégère, il essaya, tout en balbutiant, de conter son aventure. Mais la vieille avare partit d'un effrayant éclat de rire.
« Ah, monsieur se déchausse pour les mendiants. Ah, monsieur dépareille sa paire de sabots pour un va-nu-pied. Voilà du nouveau, par exemple. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je vais laisser dans la cheminée le sabot qui te reste. Et le petit Noël y mettra cette nuit, je t'en réponds. De quoi te fouetter à ton réveil. Et tu passeras la journée de demain à l'eau et au pain sec. Et nous verrons bien si la prochaine fois tu donnes encore tes chaussures au premier vagabond venu.
Et la méchante femme, après avoir donné au pauvre petit une paire de soufflets, le fit grimper dans la soupente où se trouvait son galetas. Désespéré, l'enfant se coucha dans l'obscurité et s'endormit bientôt sur son oreiller trempé de larmes. Mais le lendemain matin, quand la vieille, réveillée par le froid et secouée par son catarrhe, descendit dans sa salle basse, oh merveille! Elle vit la grande cheminée pleine de jouets étincelants, de sacs de bonbons magnifiques, de richesses de toutes sortes. Et devant ce trésor, le sabot droit que son neveu avait donné au petit vagabond se trouvait à côté du sabot gauche qu'elle avait mis là. Cette nuit même, et où elle se disposait à planter une poignée de verges. Et comme le petit Wolf, accouru au cri de sa tante, s'extasiait ingénument devant les splendides présents de Noël, voilà que de grands rires éclatèrent au dehors. La femme et l'enfant sortirent pour savoir ce que cela signifiait et virent toutes les commères réunies autour de la fontaine publique. Que se passait-il donc? Oh, une chose bien plaisante et bien extraordinaire. Les enfants de tous les richards de la ville, ceux que leurs parents voulaient surprendre par les plus beaux cadeaux, n'avaient trouvé que des verges dans leurs souliers. Alors, l'orphelin et la vieille femme, songeant à toutes les richesses qui étaient dans leur cheminée, se sentirent pleins d'épouvante. Mais, tout à coup, on vit arriver monsieur le curé, la figure bouleversée. Au-dessus du banc, placé près de la porte de l'église, à l'endroit même où, la veille, un enfant, vêtu d'une robe blanche et pieds nus malgré le grand froid, avait posé sa tête en sommeiller, le prêtre venait de voir un cercle d'or incrusté dans les vieilles pierres. Et tous se signèrent dévotement, comprenant que ce bel enfant endormi, qui avait auprès de lui des outils de charpentier, était Jésus de Nazareth en personne, redevenu pour une heure tel qu'il était quand il travaillait dans la maison de ses parents. Et ils s'inclinèrent devant ce miracle que le bon Dieu avait voulu faire pour récompenser la confiance et la charité d'un enfant.